Bonjour chers auditeurs, vous écoutez l'émission La Bible en question. Au micro, Catherine Mann et Anne-Marie Herbitre. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Catherine, bonjour à tous, ravie de vous revoir.
Nous reprenons notre exploration du livre du prophète Jérémie, là où nous nous étions arrêtés lors de la dernière émission, c'est-à-dire à la fin du chapitre 33. Ce chapitre, je vous le rappelle, était la conclusion d'un ensemble d'oracles optimistes, plein d'espérance et de réconfort, qui promettait un avenir heureux pour le peuple hébreu, puisqu'il sera un jour réuni dans son pays où il pourra vivre enfin en paix. Mais cette série d'oracles n'est qu'une petite parenthèse dans l'ensemble dramatique des prophéties de Jérémie, dont le ministère consiste en fait à dévoiler l'égarement du peuple juif qui se détourne de la volonté de son Dieu. Et Jérémie ne peut que constater la catastrophe vers laquelle on s'avance inexorablement. Nous sommes bien sûr au 7e siècle avant Jésus-Christ. Bientôt, Juda et Babylone et Jérusalem seront anéantis par les armées de Nabucodonosor et les habitants exilés à Babylone. Alors, on peut penser que tout a déjà été dit. Pourtant, nous sommes là en plein siège de Jérusalem. La plupart des villes de Juda sont déjà tombées aux mains de l'envahisseur. Et la parole de Dieu vient à nouveau aiguillonner son peuple par la voix de Jérémie. Je vous lis quelques lignes, 34, donc verset 3. « Ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël. Va dire à Sédécias, roi de Juda, va lui dire, ainsi parle le Seigneur, je vais livrer cette ville aux mains du roi de Babylone qui l'incendiera. Et toi, tu n'échapperas pas à ses mains, mais tu seras bel et bien capturé et livré entre ses mains. »
Alors, sans faire de mauvais esprit, il faut quand même remarquer qu'on sait déjà tout cela. Il n'y a vraiment rien de nouveau dans cette déclaration. Nous avions déjà entendu cet avertissement à Sédécias développé dans les chapitres 27 et 28. La seule différence, peut-être, c'est l'urgence de la situation. Cette fois, l'ennemi est aux portes de la ville et la défaite est imminente. Alors, comment interpréter cette répétition ? C'est peut-être une expression de la patience de Dieu, qui jusqu'au dernier moment veut rappeler son alliance et peut-être espère-t-il encore une conversion. C'est peut-être aussi, tout simplement, la manière hébraïque d'écrire, qui consiste à répéter les choses qui paraissent importantes pour marquer, bien imprégner les esprits. La Bible est pleine de ces répétitions qui ont pour but, un but pédagogique plutôt. Donc ici, ce nouvel oracle se situe donc vers moins 588, et la catastrophe approche, ce qui signifie que bientôt la royauté va définitivement disparaître d'Israël et de Juda. Le dernier roi, Sédécias, est décidément dur d'oreille, il n'a pas grand souci d'être fidèle à l'alliance avec son Dieu, pas plus que son peuple d'ailleurs. C'est ce qui explique sans doute la suite de ce chapitre 34, sinon on comprend mal ce que ça vient faire là.
Oui, en effet, la fin du chapitre 34 raconte un décret d'affranchissement des esclaves, qui bien sûr ne sera pas respecté. On pourrait dire que ça n'a rien à voir avec la situation vécue, celle du siège de Jérusalem. Et probablement, c'est là encore un procédé pédagogique pour que l'on comprenne mieux les rapports de Dieu avec le peuple hébreu. Il s'agit d'un récit qui doit servir d'explication. Je vous lis les versets 8 à 11 du chapitre 34. Parole du Seigneur adressée à Jérémie, après que le roi Sédécias eut conclu avec tout le peuple de Jérusalem une alliance qui proclamait l'affranchissement des esclaves. Chacun devait renvoyer libre son esclave hébreu, homme ou femme, de sorte que personne ne soit asservi à son frère judéen. Tous ceux qui étaient entrés dans l'alliance, les princes et tous les gens du peuple, acceptèrent de renvoyer libres leurs esclaves, hommes et femmes, de sorte qu'ils ne leur soient plus asservis. Ils obéirent donc et les renvoyèrent. Mais après cela, s'étant ravisés, ils firent revenir leurs esclaves, hommes et femmes, qu'ils avaient renvoyés libres, et les réduisirent à nouveau en servitude. Voilà, pour comprendre qu'il s'agit là d'un récit analogique, il faut voir qu'il est question d'une alliance d'abord accepté par tous, puis trahi sans scrupule, tout simplement pour des raisons égoïstes, comme fut trahi d'ailleurs aussi plus largement toute l'alliance d'Israël avec son Dieu. Et c'est là que Dieu intervient par la bouche de Jérémie pour dire qu'il n'est pas d'accord.
Oui, et il rappelle d'abord qu'il s'agit d'une règle qui a été écrite par la loi de Moïse, hein, depuis les origines. Donc on poursuit le verset 14 là. Au bout de 7 ans, chacun renverra son frère hébreu qui se sera vendu à lui. Il te servira pendant 6 ans, puis tu le renverras libre chez lui. Mais Dieu ajoute aussitôt, « Mais vos pères ne m'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille. » Alors ceci nous décrit une longue histoire d'infidélité, de désobéissance. Et le récit se continue avec le constat qu'à un court instant, il y avait eu une amélioration, verset 15. « Vous, en ces jours-là, vous êtes convertis, vous aviez fait ce qui est juste à mes yeux en proclamant chacun l'affranchissement de son prochain. » Un peu plus loin, « Mais vous vous êtes ravisés et vous avez profané mon nom. Vous avez fait revenir les esclaves, hommes et femmes, que vous aviez renvoyés pleinement libres. » Et le texte continue par de longs reproches, mais surtout par l'annonce du châtiment, par l'épée, la peste, la famine. Et Dieu dit « Je livrerai les hommes qui ont transgressé mon alliance, je les livrerai aux mains de leurs ennemis. » Alors cette fin du chapitre 34 est donc là pour montrer à quel point le peuple hébreu est ingrat, incapable de tenir ses engagements, et infidèle, déloyal, il mérite donc tout ce qui va lui arriver, car ce n'est en somme qu'une sanction bien méritée. Dieu ordonne donc que les armées de Babylone anéantissent Jérusalem. Il s'attend logiquement à entrer ensuite dans le vif. On s'attend, nous, logiquement à entrer dans le vif du sujet en abordant la description de cet événement dramatique, mais pas du tout.
Eh ben non, voilà. C'est comme dans tout le livre de Jérémie depuis le début, un jeu d'aller-retour, de nouveau en flashback. Nous ne suivons pas l'ordre chronologique des choses. Nous revenons en arrière de quelques années sous le règne du prédécesseur de Sédécias, le roi Joachim. Ça s'appelle faire durer le suspense. C'est donc pourquoi nous allons faire comme le texte. Vous écoutez Radio Grand Ciel, l'émission La Bible en question, et nous lisons à présent le chapitre 35 du livre du prophète Jérémie. Quand Jérémie est envoyé par Dieu, un clan de nomades, celui des Récabites, c'est-à-dire la famille des descendants d'un certain monsieur Récab, dont un fils nommé Jonadab avait fait un vœu au nom de tout son clan, qu'il transmet ainsi à ses descendants. Je vous lis verset 7 du chapitre 35. « Vous ne boirez pas de vin, ni vous, ni vos fils, à jamais. Vous ne bâtirez pas de maison, vous ne ferez pas de semailles, vous ne planterez pas de vignes, vous ne posséderez rien de tout cela, car vous habiterez sous la tente tout au long de vos jours, afin de vivre de nombreux jours sur le sol où vous êtes comme des étrangers. » Voilà, étrange façon de choisir sa vie, c'est un vœu qui engage toute sa descendance. Alors pourquoi ? Sans doute pour pouvoir mieux résister aux tentations idolâtres, les dangers de l'ivresse, les dangers de la richesse, et puis pouvoir ainsi s'assurer de rester fidèle au Dieu d'Israël. Et voici que Jérémie, le prophète, est envoyé chez eux pour les mettre à l'épreuve en leur demandant de venir boire du vin. Ce que les Récabites vont catégoriquement refuser au nom de leur fidélité à l'alliance faite par leur ancêtre. Alors c'est là que nous commençons à comprendre pourquoi ce récit est placé là dans l'ensemble du livre. En fait, il s'agit d'un contre-exemple à l'infidélité des habitants de Juda et de Jérusalem. Dieu fait ici clairement une comparaison. Je vous lis le verset 16. « Ainsi, les fils de Jonadab, fils de Récab, ont observé l'ordre reçu de leur père, alors que ce peuple, sous-entendu Israël, ne m'a pas obéi. »
Oui. Et c'est ce qui ajoute encore à la colère de Dieu qui va
Ça monte, oui.
Confirmer donc les conséquences graves pour le peuple d'Israël. Là, je vous lis, donc on est toujours au chapitre 35, je vous lis le verset 17. « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur de l'univers, Dieu d'Israël. Je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tout le malheur que j'ai proféré contre eux, parce que je leur ai parlé et ils n'ont pas écouté, je les ai appelés. » Ils n'ont pas répondu. Par contre, le chapitre 35 se termine par une bénédiction des Rechabites, une récompense pour leur fidélité. Je vous lis versets 18-19. Puis Jérémie dit à la famille des Rechabites, « Ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël, vous avez obéi à l'ordre de Jonadab, votre père, et vous avez gardé tous ses commandements, vous avez fait en tout point ce qu'il vous a ordonné. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël, il ne manquera jamais à Jonadab, fils de Rechab, un homme de sa descendance qui se tienne tous les jours devant moi. » Alors, il y a certainement un enseignement à tirer à ce récit, c'est que l'alliance avec Dieu ne tient que si elle est respectée par les deux parties. Or, Dieu, lui, est toujours fidèle, et c'est son peuple qui n'est pas fiable du tout et qui trahit ses engagements. La leçon des Rechabites est qu'ils sont un modèle de constance, de persévérance, obéissance à l'héritage des anciens. Même bon, si pour nous, leurs engagements peuvent paraître un peu étranges. Ils ont trouvé un banc d'accueil auprès de Dieu à cause du sérieux avec lequel ils s'y tiennent. Il semblerait d'ailleurs que quelques très rares tribus nomades en descendance des Rechabites existent toujours.
Oui, oui, j'ai entendu dire que au Yémen et puis autour de la mer Morte. Certains commentateurs voient même une parenté avec les lois de l'islam, qui se seraient inspirées de ces règles de vie des Rechabites. En tout cas, ils ont en commun l'interdiction de boire de l'alcool. Alors, les tribus nomades, j'ignore s'il en reste encore beaucoup de nos jours. Je sais qu'il y a les Berbères, les Kabyles, les Touaregs, mais ils sont arabisés, mais souvent aussi sédentarisés. En tout cas, en conclusion de ce chapitre 35, nous devons retenir l'importance pour Dieu de la fidélité, mais pas seulement en parole, en acte. Avoir un jour accepté un contrat d'alliance et ne pas s'y tenir ensuite dans la durée, ça ne suffit pas. Je pense que ça devrait aussi nous faire réfléchir en tant que chrétiens. Être baptisé, c'est bien, mais sans un engagement réel de nos vies, c'est peut-être pas suffisant pour nous assurer l'accès direct au paradis. Je sais pas. Abordons maintenant le chapitre 36, un nouveau récit qui se situe encore pendant le règne du roi Joachim. Je vous lis le début. Cette parole du Seigneur fut adressée à Jérémie. Procure-toi un rouleau. Tu écriras dessus toutes les paroles que je t'ai dites concernant Israël, Juda et toutes les nations, depuis le jour où j'ai commencé à te parler, au temps de Josias, jusqu'à aujourd'hui. Peut-être qu'en apprenant tout le mal que je projette de leur faire, les gens de la maison de Juda reviendront chacun de son mauvais chemin, et je pardonnerai leurs fautes et leurs péchés. Alors, les exégètes disent que c'est vraiment là qu'on voit le premier écrit du livre de Jérémie, celui que nous lisons actuellement. C'est une première récapitulation qui sera mise par écrit pour être transmise aux habitants de Jérusalem.
Bibliquement parlant, ce n'est jamais bon signe quand on commence à mettre par écrit.
Non, dans une tradition orale, c'est oui. Plutôt...
c'est, tout va mal. Il y a quelque chose. Voilà, il y a des gros problèmes et on va... Voilà, il faut malgré tout, malgré tous les problèmes, laisser des traces durables. Mais ici, il y a un élément quand même particulier, car le texte nous rappelle que Jérémie ne peut plus aller prêcher au temple, parce qu'il en est exclu de fait, à cause de ses interventions offensives contre l'hypocrisie religieuse, et qu'il risque sa vie, si on l'aperçoit de nouveau. L'astuce va donc être de rédiger la parole prophétique par écrit et de la faire lire par quelqu'un d'autre. Et c'est ici qu'entre en scène Baruch. Donc je vous lis le verset 4 à 6 de chapitre 36. Jérémie appela Baruch, fils de Neria. Baruch écrivit dans le rouleau, sous la dictée de Jérémie, toutes les paroles que le Seigneur lui avait dites. Alors Jérémie donna cet ordre à Baruch. « Je suis empêché, je ne peux entrer dans la maison du Seigneur, mais toi, tu y rentreras, et les paroles du Seigneur que tu as écrites dans le rouleau sous ma dictée, tu les proclameras aux oreilles du peuple. » Dans la maison du Seigneur, le jour de jeûne. Et tu les proclameras aussi aux oreilles de tous les gens de Juda qui viennent de leur ville. Donc Baruch fait donc cela bien fidèlement. On peut d'ailleurs s'étonner de la manière dont ce passage nous décrit Baruch. Voilà, simple secrétaire, docile, sans initiative personnelle. C'est Jérémie qui dirige tout. Or, Baruch est considéré lui-même comme un prophète, puisqu'il a laissé un texte dans nos Bibles, le livre de Baruch.
Oui, mais voyons de nouveau le problème de la pluralité des éditions. Il y a plusieurs éditions du livre de Jérémie et plusieurs Bibles. Tout dépend de quelle Bible il s'agit. Et aujourd'hui, dans la Bible hébraïque, on ne trouve pas le livre de Baruch, comme ils disent en hébreu, hein, qui est considéré comme un apocryphe. Et Baruch n'est pas reconnu comme prophète, mais simplement scribe, disciple de Jérémie. C'est du côté des Grecs, la Septante, qu'on trouve le livre de Baruch. Et dans le livre de Jérémie originel en grec, Baruch a un statut de prophète, prophète adjoint de Jérémie. Et tout ça parce qu'à l'origine, Baruch est là comme témoin. C'est un prophète garant de la véracité de la parole de Jérémie. Mais comme, de son côté, c'est compliqué, mais le texte hébreu, lui, a continué à évoluer. Il a été repris après l'exil, réécrit. La fonction de Baruch comme témoin n'est plus nécessaire, puisque tout ce que Jérémie avait annoncé s'est réalisé. Alors on le gomme un peu et il devient simple scribe du serviteur de Jérémie. Par contre, Jérémie prend sa pleine stature de très grand prophète, puisque tout ce qu'il dit arrive.
Un vrai prophète.
Voilà, et ça continue d'ailleurs, Baruch intervient encore dans le chapitre 36, dans ce petit récit, celui de la destruction du rouleau par le roi. Le roi avait en effet été mis au courant de la lecture du rouleau au temple et a demandé qu'on vienne lui faire la lecture à domicile. Un certain Yehoudi vient donc lui faire la lecture, mais je vous lis verset 23. « Chaque fois que Yehoudi avait lu trois ou quatre colonnes, le roi, avec le canif du scribe, les déchirait et les jetait dans le feu du brasero jusqu'à ce que le rouleau fût entièrement disparu dans les flammes. »
Donc, ce qui signifie bien que le roi se moque éperdument de la parole du prophète.
Et oui.
Et en plus, il commande qu'on se saisisse de Jérémie et de Baruch, sans doute pour les faire mettre à mort. Heureusement, le texte nous dit, verset 26, « Mais le Seigneur les a cachés. » Dieu est obstiné, puisque voici ce que dit la suite. Alors la parole du Seigneur fut adressée à Jérémie après que le roi eut brûlé le rouleau et les paroles que Baruch avait écrites sous la dictée de Jérémie retourne te procurer un autre rouleau et écris dessus toutes les paroles qui étaient déjà dans le premier rouleau, celui qu'a brûlé Joachim, roi de Juda. Et à la fin du chapitre 36, verset 32, je vous le lis, Jérémie se procura un autre rouleau et le donna au scribe Baruch, fils de Néréia, lequel y écrivit sous la dictée de Jérémie toutes les paroles du livre que Joachim, roi de Juda, avait brûlé dans le feu. Beaucoup d'autres paroles semblables y furent ajoutées. Voilà donc le tout premier livre de Jérémie qui est réécrit une première fois et déjà avec des ajouts.
Voilà, c'est la tradition. Vous écoutez Radio Grand Ciel, donc l'émission La Bible en question, et nous abordons à présent le chapitre 37 du livre du prophète Jérémie. Et pour cela, il nous faut à nouveau faire un peu d'acrobatie mentale, puisque nous revenons sous le règne de Sédécias, dernier roi de Juda. Et comme le dit le verset 2, « Ni lui, ni ses serviteurs, ni les gens du pays n'écoutaient les paroles que le Seigneur leur adressait par l'intermédiaire du prophète Jérémie. » Donc, nous sommes toujours dans les mêmes problèmes et à la veille de l'anéantissement de Jérusalem. Sauf que voici tout à coup, verset 3, un petit sursaut du roi. Le roi Sédécias envoya Yehoukal et Sophonie dire au prophète Jérémie « De grâce, intercède pour nous auprès du Seigneur notre Dieu ». Et la réponse du Seigneur ne tarde pas, puisque Dieu va s'adresser ainsi à Jérémie, verset 6. « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Voici ce que vous direz au roi de Juda, qui vous envoie vers moi pour me consulter. Les Chaldéens reviendront attaquer cette ville, ils la prendront, ils l'incendieront, ne vous abusez pas. » Mais voilà, à partir de ce verset, nous voici malheureusement de nouveau obligé de faire preuve de beaucoup de souplesse parce que la suite raconte une trêve pendant le siège de Jérusalem. Les Babyloniens, c'est-à-dire dans le texte on voit aussi les Chaldéens, c'est la même chose, se retirent pour des raisons militaires, problèmes. Et donc c'est un petit trêve pendant laquelle Jérémie veut en profiter pour sortir de Jérusalem et se rendre dans son village parce qu'il y a des problèmes d'héritage familial. Mais arrivé à la porte de Jérusalem, il est arrêté par le chef du poste de garde qui l'accuse de vouloir passer à l'ennemi. Et Jérémie a beau nier, eh ben on le jette en prison. Le verset 16 ajoute « Et Jérémie y demeura pour de nombreux jours ». Et certains manuscrits, certains textes traduisent d'ailleurs par « cachot ». C'est une méchante prison vilaine.
Et alors, c'est là que le roi Sédécias l'envoie chercher à nouveau.
Dans sa prison.
Voilà, dans sa prison. Et au verset 17, il le questionna en cachette dans sa maison et lui demanda « Y a-t-il une parole venant du Seigneur ?» Jérémie lui répondit « Il y en a une. » Et il lui dit « Tu seras livré aux mains des rois, du roi de Babylone. » Alors on peut vraiment se demander à quoi sert ce récit qui ne fait que confirmer ce qu'on sait déjà. La seule chose intéressante est que cela nous montre que le roi Sédécias n'est pas foncièrement mauvais. Il reconnaît visiblement que Jérémie est un vrai prophète et puisqu'il le consulte et demande son impression...
Son intercession
même. Oui, son intercession, voilà. Il est inquiet et n'est pas très sûr de savoir ce qu'il doit faire. Mais le questionnement vient visiblement trop tard. Là. L'avenir est définitivement fixé par Dieu et le châtiment incontournable. Pourtant, malgré la réponse inflexible de Dieu, Jérémie en profite pour demander au roi de ne pas être rejeté en prison, parce que là, il mourrait certainement. Et le roi accepte d'adoucir le sort de Jérémie. Voilà, je pense que simplement, Sédécias fait de mauvais choix. Hein, maintenant, il doit assumer les conséquences. Quant à Jérémie, je vous lis le verset 21. Le roi Sédécias ordonna que Jérémie soit consigné dans la cour de garde et qu'on lui donne chaque jour une couronne de pain de la rue des boulangers jusqu'à ce que tout le pain de la ville soit épuisé. Et Jérémie demeura dans la cour de garde. Voilà, mais... jusqu'à ce que le pain de la ville soit épuisé, cela nous montre qu'entre-temps, le siège de Jérusalem avait repris, que la trêve était finie.
Et oui, on retient le temps qu'il y aura du pain. Arrivons ainsi au chapitre 38, et là, on sent vraiment monter l'angoisse dans Jérusalem. Et dans sa cour, Jérémie continue de prêcher, en annonçant la mort à tous ceux qui resteront dans la ville. Il conseille donc à chacun d'aller se rendre aux Babyloniens pour pouvoir avoir la vie sauve. Mais ces paroles ne sont toujours pas acceptées par les responsables du peuple. Je vous lis le verset 4 qui est très clair. « Alors les princes dirent au roi Sédécias que cet homme soit mis à mort. En parlant comme il le fait, il démoralise tout ce qui reste de combattants dans la ville et toute la population. Ce n'est pas le bonheur du peuple qu'il cherche, mais son malheur. » Et le roi Sédécias fait réagir. Comme quelqu'un d'un peu lâche, d'inconsistant en tout cas, oublieux du respect qu'il avait pour le prophète, il va leur livrer Jérémie en disant simplement « Il est entre vos mains, le roi ne peut rien contre vous. » On peut bien sûr être choqué de cette réaction, c'est mon cas, qui semble tout simplement donner raison au dernier qui parle. Mais il faut dire que la situation est quand même plus ou moins bizarre. Dieu demande à son peuple une capitulation devant la force de l'envahisseur. On peut quand même imaginer que ça ne plaît pas forcément à ces militaires, finalement habitués plutôt à gagner des guerres pour la défense de leur Dieu. C'est une situation terriblement humiliante que de se soumettre pour rester en vie. Ça manque de panache. Mais je pense qu'on doit nous-mêmes réfléchir à ce que Dieu veut dire derrière ça. C'est pas... On ne nous demande pas forcément toujours un héroïsme inutile. Peut-être d'abord savoir respecter la vie, rester vivant. Quand l'ennemi est visiblement trop fort, ça ne sert à rien de lutter. Mais je ne pense pas que ça soit si facile à accepter.
Surtout qu'il y a toujours un doute qui plate sur cette fonction prophétique. S'agit-il d'un vrai ou d'un faux prophète ? Parce que rappelons-le, le seul critère que nous donne la Bible est d'attendre pour voir si ce qui est annoncé s'est réalisé. Alors quand il y a des décisions urgentes à prendre, c'est un peu gênant. Bref, Ici, il aurait mieux fallu faire confiance à Jérémie, la suite de l'histoire va le montrer. Mais pour le moment, Jérémie va être jeté au fond d'une citerne, sans eau, mais alors là, pleine de boue, et on l'y laissera jusqu'à ce qu'il meure de faim. Mais heureusement, un homme va avoir pitié de Jérémie, un Éthiopien du nom de Deveb Melek, qui va aller plaider la cause de Jérémie auprès du roi. Et comme ce roi ne peut décidément pas faire autrement que de donner la raison au dernier qui parle, il va céder, verset 10-11, je vous le lis. « Alors le roi donna cet ordre à Ebed-Melech, « prends 30 hommes avec toi et fais remonter de la citerne le prophète Jérémie avant qu'il meure. » Donc, ce qui fut fait, Jérémie fut sauvé et continua à demeurer dans la cour de garde. Ensuite, on recommence un peu le même scénario que précédemment. Si la situation n'était pas si dramatique, on aurait de quoi rire. Oui, parce que le roi va à nouveau consulter Jérémie. Mais cette fois-ci, Jérémie, méfiant, s'arrange d'abord pour être assuré d'avoir la vie sauve. Quelle que soit la réponse qu'il donnera au roi, il fait un petit peu un chantage. Après quoi, il dira la même chose que d'habitude, verset 17. « Jérémie dit à Sédécias, ainsi parle le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu d'Israël. » Si tu sors pour te rendre aux officiers du roi de Babylone, tu auras la vie sauve et cette ville ne sera pas incendiée.
Et comme d'habitude, le roi ne va pas prendre la bonne décision. Ce qui nous amène maintenant au chapitre 39 qui raconte vraiment la fin du siège de Jérusalem, l'assaut ultime. Alors, dans la bagarre, d'abord, le roi Sédécias, pris de panique, et tous ses guerriers, il décide de prendre la fuite vers les déserts du sud. Mais évidemment, ils seront rattrapés et capturés. Je vous lis à partir du verset 6 quelques versets qui décrivent un peu les horreurs de la situation. Le roi de Babylone égorgea les fils de Sédécias sous les yeux de leur père, Aribla. Et le roi de Babylone égorgea tous les notables de Juda. Puis, il creva les yeux de Sédécias et le fit attacher avec une double chaîne de bronze pour l'emmener à Babylone. Les Chaldéens incendièrent la maison du roi et les maisons du peuple, et ils abattirent les remparts de Jérusalem. Ensuite, Nabuzardan, commandant de la garde, déporta à Babylone ceux du peuple qui restaient encore dans la ville, ainsi que les déserteurs qui s'étaient rendus à lui. Bref, le reste du peuple. Nabuzardan, commandant de la garde, laissa au pays de Juda ceux qui étaient pauvres, qui ne possédaient rien. Et il leur donna ce jour-là des vignes et des cultures. Donc déjà, remarquons que tous les Judéens ne furent pas exilés, mais seulement les habitants de Jérusalem et les notables. L'occupant babylonien voulait quand même que le pays continue de fonctionner.
Et ce qui est génial, c'est que les pauvres, les laissés pour compte, vont bénéficier de cette situation. Les pauvres hériteront de la terre. Il y a comme un petit avant-goût de l'ère messianique. En tout cas, c'est déjà la revanche du prolétariat. Il y a au moins quelque chose de bien qui est sorti de tout ce carnage. Et Jérémie, un bon collaborateur de l'occupant, fut aussi préservé. Je vous lis le verset 11. Au sujet de Jérémie, Nabuchodonosor, roi de Babylone, avait donné ses ordres à Nabuzardan, commandant de la garde, en lui disant « Prends-le et veille sur lui, ne lui fais aucun mal, mais traite-le comme il te le demandera. » Donc, un peu plus loin, verset 14, « Ils envoyèrent prendre Jérémie dans la cour de garde et le confièrent à Godolias, fils d'Aïkam, fils de Shaphan, pour le conduire chez lui, et il demeura au milieu du peuple. » Alors on pourrait croire que le prophète va enfin pouvoir vivre tranquille dans le pays de ses pères, mais il n'en sera rien malheureusement. Et il y a encore une suite à l'histoire de Jérémie.
Et voilà, on peut encore quand même citer la fin du chapitre 39, qui est un petit oracle de salut en faveur d'Ebed-Melech, l'Éthiopien qui a obtenu que l'on sauve Jérémie de sa citerne. Ce qui veut dire que lui aussi sera épargné lors de la destruction de Jérusalem parce qu'il a obéi au Dieu d'Israël. Nous voici donc au terme de notre émission et il nous restera encore la prochaine fois à en finir avec l'histoire de Jérémie et à en tirer les conclusions de tout notre parcours à travers ce livre du prophète. Nous vous disons donc au revoir, chers auditeurs, et à très bientôt.
Au revoir Catherine, au revoir à tous.